Nous prenons le livre d'Ésaïe au chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. À partir du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Voilà la promesse que le Seigneur va faire à son peuple. Nous savons que l'histoire d'Israël avec Dieu est une histoire qui est assez mouvementée, car tantôt Israël se détournait du Seigneur, tantôt ils allaient adorer d'autres faux dieux, tantôt le Seigneur envoyait des maladies, il envoyait d'autres peuples étrangers pour leur faire la guerre, il envoyait des malédictions, et lorsque le peuple se repentait, le Seigneur avait pitié de son peuple et il revenait. Donc durant toute la marche du peuple d'Israël depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ça a été, je dirais, une relation plus ou moins compliquée. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie, nous nous rendons compte que à plusieurs reprises, le Seigneur a menacé de détruire ce peuple-là, a menacé de châtier son peuple. Mais autant de fois il a envoyé des menaces, autant de fois il leur a dit, si toutefois vous vous repentez, alors je n'agirai pas. Donc nous voyons vraiment la volonté du Seigneur dans sa marche avec Israël de lui donner ce qu'il y avait de meilleur, de faire de ce peuple-là un peuple heureux. Mais c'est le peuple qui se détournait de lui. Alors il vivait de temps en temps des temps difficiles, des temps dans ce passage-là qui sont appelés les ténèbres tout simplement. Lorsque nous parlons de ténèbres, nous parlons d'obscurité. Nous voyons que l'image que tout est noir. Dans les ténèbres, il est difficile d'avoir un bon aperçu de certaines choses, même de certaines personnes. Ça nécessite quelquefois qu'il faut qu'on se rapproche vraiment de très près pour être capable de lire ou de voir il s'agit de qui on parle ou bien c'est quelle personne. Lorsque dans certaines rues, lorsque c'est pas éclairé, tu peux voir qu'il y a la silhouette de quelqu'un, mais la distance qui vous sépare par les ténèbres t'empêche de discerner véritablement à qui tu as affaire. Et ce moment des ténèbres, en général, l'homme ne l'aime pas. Parce que c'est un temps où il ne maîtrise rien. Ses sens ne lui servent presque plus. Les oreilles permettent d'entendre, mais ne lui donnent pas véritablement le discernement de qu'est-ce qui bouge autour de moi. Les yeux, à ce moment-là, ne lui servent pas à grand-chose parce que l'obscurité l'empêche de voir et d'avoir le bon discernement de tout ce qui se dit, de tout ce qui se passe autour de lui. Donc c'est un temps où, finalement, il ne maîtrise rien. Et c'est ce temps-là que le Seigneur a permis quelquefois, dans lequel son peuple s'est retrouvé, afin de le punir, afin de le châtier. Mais le Seigneur fait cette promesse. Il dit quand même que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire que même si vous connaissez un temps de ténèbres aujourd'hui, un temps où la vie semble noire, où tout semble ne pas aller, tout semble se retourner contre vous, il dit que ces ténèbres-là ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où certains ont régné, mais il y a un temps où ils ont perdu leur règne. Il y a un temps où certains ont été élu président de la République, mais il y a un temps où ils ont été rejetés par le peuple. Et le Seigneur dit que même si le temps des ténèbres est là, ce qui est sûr et certain, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a beaucoup de situations que nous pouvons vivre qu'on peut comparer à des ténèbres, des temps où nous sommes attristés par certaines situations, les temps où nous avons l'impression que le Seigneur est très loin de nous et que le mal ne fait que s'amonceler sur notre vie, que la charge ne fait que grandir Et on a le sentiment que jamais on ne verra le tunnel. On a le sentiment d'avoir crié, d'avoir prié plusieurs fois, de même avoir jeûné, mais de voir que la situation ne bouge pas, la situation ne change pas. Alors il y a ceux qui décrochent, qui disent finalement Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, qui retournent dans le monde, ou bien qui se permettent tout simplement, par faiblesse, de faire marche arrière et d'avoir une vie qui est mitigée, mélangée, qui est confuse, une vie dans laquelle on ne sait plus trop et la personne ne sait plus trop est-ce que je suis toujours chrétien, est-ce que je ne le suis pas. On commence à se poser des questions sur des péchés qu'on avait commis il y a très longtemps et on se dit peut-être que Dieu ne m'a pas pardonné. Peut-être que ce que je vis aujourd'hui, c'est la conséquence de mon péché. Pourtant, j'ai crié à Dieu, j'ai demandé pardon. On commence à vouloir avoir des explications, à vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le Seigneur semble si loin de moi? Pourquoi la situation semble me peser autant alors que j'ai confessé que Jésus-Christ est mon Seigneur? Lorsque Jacob demande en mariage Rachel et que le père de Rachel va le tromper, Laban, en emmenant vers lui la grande sœur qui était Léa, il dit, chez nous ça ne se fait pas. On ne peut pas donner la cadette avant la première. Prends d'abord l'aînée et travaille encore pour moi 7 années de plus et ensuite je te donnerai Rachel. Dans le temps des ténèbres, on a le sentiment que tout devient injuste. On a le sentiment que Dieu voit ce qui se passe, mais qu'il ne fait rien. Je suis injurié, je suis moqué, je suis injustement traité. Les dossiers que j'ai donnés, tout était en bonne et due forme, mais voilà que on ne me donne pas justice. On a le sentiment que Dieu ne voit pas, que la situation dans laquelle nous avons notre raison, la situation dans laquelle nous sommes légitimement, on doit nous rendre justice, mais Dieu ne le voit pas, il ne fait rien. Ça a dû être un temps difficile pour Jacob, qui a dû finalement travailler 14 ans. 14 ans pour avoir la femme qui devait lui revenir. Il avait fait sa part du contrat. Mais il avait été trompé par son beau-père. Et il a dû attendre finalement 14 ans. 14 ans, c'est long. Quand il faut attendre, alors que tu es dans ta raison, alors que tu es dans ton droit, on t'a escroqué et la justice a tranché qu'effectivement tu avais raison. Mais le temps que les choses se mettent en marche pour que tu sois justifié, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, tu en souffres. Pendant ce temps-là, tu galères. J'écoutais dernièrement un homme qui s'est fait escroquer. Un homme qui est conducteur de véhicules, pas les taximens, mais VTC, et qui s'était lié d'amitié avec une certaine personne, et que par conséquent, ils se sont arrangés que la personne le payait un peu quand il voulait, mais ça ne posait aucun problème parce qu'il honorait toujours son contrat. Et voilà qu'à un moment donné, dans la naïveté, ce chauffeur s'est laissé aller jusqu'à ce que le monsieur lui devait 6 000 euros. Mais ce monsieur qui était chauffeur de VTC n'était pas chauffeur pour son propre compte, il était pour le compte d'autrui. Et voilà que quand on lui demande maintenant de rendre compte des 6 000 euros manquant dans la comptabilité, il se trouve incapable de pouvoir les restituer. Et la personne à qui il rendait ce service-là s'est tout simplement volatilisée. Alors, il est évident que devant la justice, il peut trouver raison. Mais le temps que les choses se mettent en marche, le temps que le procès se déroule, le temps qu'on arrête ce monsieur, le temps qu'il passe en jugement, pendant ce temps-là, il doit rendre compte à son patron. Il a un loyer à payer, mais dans l'attente, le patron l'a tout simplement licencié. Il se retrouve licencié avec l'incapacité de pouvoir payer son loyer. Le temps que la justice se mette en marche, il a perdu son travail. Il risque de perdre son logement et de se retrouver à la rue ou peut-être dormir dans la voiture. Parce que la justice semble lent à agir. Et quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, on a ce regard-là vis-à-vis du Seigneur. On a le sentiment que là, le Seigneur met trop de temps. Ça fait trop de temps, je suis dans les ténèbres, je ne vois pas où est l'action de Dieu. Ça fait longtemps que je suis dans les difficultés, j'ai perdu mon travail. Et quelquefois, j'ai même perdu le travail, entre guillemets, parce que j'ai fait le choix de suivre le Seigneur dans une voie. Mais en retour, il n'y a rien. J'ai un crédit à rembourser. J'ai un loyer à payer. Mais le Seigneur semble loin. Dans quelle situation je me retrouve maintenant? Les choses commencent à s'amonceler, à s'entasser. Et je ne vois toujours pas une lueur d'espoir. Je ne vois toujours pas la lumière de Dieu briller même à distance. Comme signe qu'il arrive, il vient bientôt. Je ne vois pas ça. Et là, on tourne de gauche à droite. Il y a ceux qui vont chercher le secours en Égypte. Ceux qui vont dans le monde. Essayer d'entrer dans certains compromis pour résoudre la situation. Parce que à ce moment-là, il a perdu l'espoir que le Seigneur va agir. Mais le Seigneur dit à son peuple, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Mais le temps, selon le monde, nous presse et nous fait croire que là, le délai est dépassé. Que vas-tu faire maintenant? Dieu ne t'entend pas, Dieu ne te voit pas. La justice qui doit te revenir, eh bien, elle ne te revient pas. Parce que les choses agissent avec lenteur. Et pendant tout ce temps-là, tu regardes par la fenêtre pour voir si le Sauveur va venir. Il n'y a rien qui vient. Tu regardes dans la boîte aux lettres pour voir si enfin le jugement a été effectué. La boîte aux lettres est toujours vide. Tu regardes sur ton téléphone, aucun texto, aucun appel. Et les jours ne font que passer. Et tu ne fais que t'assombrir. Entrer dans une forme de tristesse, une profonde tristesse. Être au bord de la dépression. À ce moment-là, on oublie les promesses du Seigneur. Le Seigneur dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Seigneur ne peut pas rejeter son héritage. Lorsque le Seigneur a été en colère vis-à-vis de son peuple et qu'il a dit à Moïse, je vais détruire ce peuple-là. Moïse a intercédé. Il a dit, Seigneur, si tu tues ce peuple, qu'est-ce que les autres nations diront? Voilà, il a délivré son peuple de l'Égypte pour le faire mourir ensuite. Voilà ce que les gens diront, Seigneur, que tu nous as délivrés expressément pour nous tuer. Ça n'a pas d'intérêt. Quel est l'intérêt de Dieu de nous laisser mourir dans les ténèbres? Les gens diront, mais voilà, ces gens se sont convertis parce qu'ils ont cru que leur Dieu était le véritable Dieu. Mais voilà ce Dieu-là qui les a sauvés, il est en train de les laisser mourir à petit feu. Le Seigneur ne rejette pas son héritage. Il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Seigneur semble loin quelquefois, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas loin. La Bible nous dit que les cieux, l'étendue, tout ce que nous voyons avec nos yeux, témoigne que le Seigneur est vivant. La Bible nous dit que tout ce que nous voyons avec nos yeux, à travers la nature, c'est un langage, c'est une parole du Seigneur qui est censée nous rassurer, parce qu'il dit qu'il soutient toutes choses par sa main. Il soutient toutes choses, le Seigneur. Dans tant que nous voyons la nature et la création vivre, c'est le témoignage que le Seigneur est toujours là. Mais si nous regardons uniquement aux ténèbres, alors nous sommes comme ceux qui ont oublié qui était ce Dieu-là. Si aujourd'hui tu fais confiance à une personne, et la personne te bande les yeux, te ferme les yeux, et qui te tient par la main, qui te dit « suis-moi », ce sont peut-être des choses qu'on a dû faire peut-être une fois, ou bien que les enfants nous ont peut-être fait. Et lorsqu'on fait confiance à la personne, on joue le jeu, on ferme vraiment les yeux et on se laisse conduire. Dans les ténèbres, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Même si les alentours, à l'alentour, tout ce que tu vois semble te dire que le Seigneur n'est pas là. La réalité, c'est que le Seigneur est là. Tant que nous voyons les oiseaux voler et ne pas tomber du ciel, tant que nous voyons que le soleil brille, qu'il est à la même place, il ne tombe toujours pas. Tant que nous voyons les nuages toujours suspendus au ciel, tout ça est le témoignage que le Seigneur soutient encore toutes choses. Tant que nous voyons que la loi de la pesanteur agit encore, que nous marchons sur le sol, cela montre que le Seigneur soutient toutes choses. Dans le passage que nous lisons le chapitre 9 aussi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà la promesse que le Seigneur fait. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous savons que dans l'histoire de l'humanité, à cause du péché d'Adam, le monde entier a été plongé dans une forme de ténèbres. Une forme de ténèbres parce que la mort régnait. La mort régnait. Les gens n'avaient plus l'espérance. L'espérance, elle n'y était pas. Parce que les sacrifices qui étaient faits pour le pardon des péchés étaient un sacrifice imparfait qu'il fallait répéter à chaque fois. C'était un sacrifice qui ne calmait pas, qui calmait momentanément la colère du Seigneur, mais qui ne résolvait pas la solution qui était d'éradiquer totalement le péché. Il fallait qu'il y ait un sacrifice parfait. Alors dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, alors les ténèbres ont cessé de régner. Parce que par son sacrifice, il est venu vaincre la mort. Des ténèbres dans lesquelles le monde était plongé, le Seigneur est venu nous en sortir. Alors si le Seigneur a pu résoudre le problème du péché, parce que le péché avait plongé le monde entier dans les ténèbres, s'il a pu vaincre ces ténèbres-là, il a pu se lever et dire stop aux ténèbres, c'est qu'il peut le faire dans notre vie. S'il a pu le faire pour toute l'humanité, c'est qu'il peut le faire pour un individu. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? De sauver plusieurs personnes ou de sauver une seule personne? Si je parle à la manière des hommes, il y a 5 hommes là qui sont en train de se noyer. Comment tu peux les sauver les 5 en même temps? Soit tu te noies avec eux, soit tu les sauves un par un. Mais si Dieu fait en sorte que tu as cette capacité de sauver les 5 en même temps, mais qu'est-ce que ça va représenter de sauver une seule personne qui se noie? Si tu as cette capacité d'en sauver 5, c'est que sauver une personne sera plus simple. Alors si le Seigneur a apporté la lumière sur toute la terre qui était dans les ténèbres, comment ne pourra-t-il pas apporter la lumière dans ta vie, à toi seul? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous prenons l'exemple de Job, qui a connu des temps de ténèbres comme nous le connaissons. Et c'est vrai que lorsque nous nous plaignons quelquefois, lisons le livre de Job, ça va un peu nous calmer. Parce que je crois que le niveau de souffrance que Job avait connu, nous ne l'avons pas atteint. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job n'est pas au courant de ce qui se dit à son encontre dans les lieux célestes. Lui, il vit sa vie paisiblement, en se reposant sur le Seigneur, en ayant la crainte de Dieu, en faisant ce qu'il faut lorsqu'il a le sentiment que peut-être que ses enfants ont mal fait. Il a un témoignage favorable même aux yeux du Seigneur. C'est un homme intègre. Et sur la terre, il n'y a pas un homme qui soit aussi intègre que lui. Job était tranquille dans sa vie. Et voilà que le Seigneur va permettre au diable d'amener les ténèbres dans la vie de Job. Job va entrer dans les ténèbres, ce n'est pas parce qu'il avait péché, mais c'est uniquement parce que Dieu l'a permis. Le temps des ténèbres n'est pas forcément lié au péché. Le temps des ténèbres peut être voulu du Seigneur, parce qu'il y a un objectif derrière. Il y a la volonté de Dieu de nous amener à un autre niveau, de nous amener à une autre étape. Le temps des ténèbres, ça ne veut pas dire le temps de la mort. Le temps des ténèbres, c'est le temps où l'épreuve est profonde, où l'épreuve est difficile. Et comme je l'ai dit, notre perception à ce moment-là, de la vie même chrétienne, quelquefois peut être ébranlée. On peut se mettre à douter. On peut se mettre à se poser des questions, à douter même de la présence de Dieu encore dans notre vie. Job était paisible. Et soudainement, on va lui annoncer que ses fils, que ses filles sont morts, emportés par le vent, emportés par la tempête. On va lui prendre toutes ses richesses. Le diable va aller jusque-là. Lorsque le temps des ténèbres arrive, il n'arrive pas en frappant à la porte, en disant « Prépare-toi, le temps des ténèbres arrive, tu vas souffrir. » Ça arrive comme une surprise, au moment où on ne s'y attend pas. C'est pourquoi Salomon le dit, dans le livre d'Ecclésiaste, il dit que « Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne sache pas ce qui sera après lui. Au moment où Job est dans sa vie paisible avec le Seigneur, agréable à Dieu, il n'imagine pas ce qui arrive le lendemain. Pourtant, ça va arriver. Mais lorsque ça arrive, c'est comme un choc. C'est une surprise. Quelquefois, ça peut arriver une heure après, tu es en train de rire. Une heure après, un coup de fil, une mauvaise nouvelle. Mais quand tu riais il y a une heure, tu ne te doutais pas qu'une heure après, les ténèbres allaient surgir dans ta vie. C'est possible. Peut-être que tu es dans les ténèbres. Peut-être que tu es dans une épreuve qui paraît interminable. Tu as prié peut-être depuis des années. Tu as prié peut-être depuis des mois, depuis des jours. Même pas un songe. Même pas une vision. Même pas une prophétie. Même pas une prédication dans laquelle tu vas entendre quand même une réponse de Dieu. Rien, c'est le néant. Et là, c'est difficile. Parce que Dieu semble loin. On se sent tout simplement abandonné du Seigneur. Job entre dans la souffrance. Parce qu'on a pris ce qui avait de la valeur à ses yeux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin parce que lui maintenant est atteint dans son corps. Malade jusqu'à se gratter avec des tinsons de bouteille. Et lorsque les ténèbres sont là, on a le sentiment que tout se rajoute. Tout se rajoute, tu es licencié. Au travail, ça ne se passe pas bien. C'est difficile à vivre. Et le lendemain, la voiture tombe encore en panne. La voiture tombe en panne. Tu dépenses de l'argent qui était imprévu. Ça te met dans des difficultés auprès de la banque. Et là, tu reçois un coup de fil. Dans ton pays natal, tes parents sont malades. Tel est décédé. Il faut qu'on s'organise pour les obsèques. Tout vient s'ajouter. Le lendemain, c'est peut-être un enfant qui tombe malade. Ou c'est encore toi qui tombes malade. Et là, tu as vraiment le sentiment que Dieu t'a abandonné. Non seulement c'est la crise. Tu perds ton boulot. La voiture tombe en panne. Un enfant tombe malade. Ou toi-même, tu tombes malade. Et les choses ne font que s'entasser. Et là, vraiment, le bout du tunnel paraît vraiment C'est comme si l'éternel, quoi. C'est comme si c'est un tunnel éternel où tu ne verras jamais le bout. Et là, tu regardes autour de toi, tu as le sentiment que personne ne comprend. Personne ne t'entend. Personne ne voit ta souffrance. Non seulement Dieu ne voit pas, non seulement Dieu n'entend plus, mais même le pasteur aussi ne voit pas. Ça fait une semaine, je ne suis pas venu à l'assemblée, mais personne ne m'appelle, personne ne s'inquiète. Dieu t'a vraiment mis à part et tu sembles souffrir seul. Et là, le Seigneur observe. Il est toujours sur son trône. Quand il y a eu le déluge au temps de Noé, c'était un temps de ténèbres pour tous les habitants de la terre. Mais la Bible dit que Dieu était sur le trône. Dieu était assis sur son trône et il est là, il observe. Ce n'est pas qu'il prend plaisir à cela, comme il n'a pas pris plaisir à voir Jésus-Christ être crucifié, injurié, maltraité. Le Seigneur était toujours sur son trône en train d'observer. Pendant que son peuple était esclave en Égypte, son premier-né, comme le Seigneur dit, il voyait la souffrance de son peuple. Pendant 400 ans, il est resté assis sur le trône et il regardait. Là, l'espoir devient difficile, devient compliqué. Mais Job est resté intègre. Nous lisons verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. » Lorsque tu es dans les ténèbres, il y a toutes sortes de paroles que tu entends. Tu entends toutes les paroles sauf celles de Dieu. Celle qui vraiment va te rassurer, tu ne l'entends pas. Tu entends tes pensées qui te disent « retourne dans le monde ». À ce moment-là où, 3-4 jours, les frères de l'église t'ont oublié, tu es dans la souffrance, dans la maladie, personne n'a pensé à t'appeler. Tu reçois que des appels des amis du monde, des gens de la famille qui ne sont pas convertis. Ce sont eux qui t'appellent et quelquefois qui te disent « ah voilà, c'est ça l'église, c'est ça ton église ». Tu es là, tu souffres tout seul. Hein? Où sont tes frères? Où sont les chrétiens? Tu entends que des mauvaises paroles qui t'incitent quelque part à rejeter Dieu, à rejeter le fonctionnement de Dieu. Job entend la voix de sa femme qui lui dit, mais pourquoi tu restes intègre? À quoi ça sert? Tu ne vois pas que tout ce que tu as vécu là, c'est une malédiction. Dieu t'a abandonné. À quoi ça sert? Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Arrête avec ta vie de l'église. Reviens tout simplement. Autrefois, quand c'était comme ça, tu vas chez le féticheur, il règle le problème. Tu vas chez le marabout, il règle le problème. Va chez le voyant, il va te dire c'est quoi l'origine. C'est quelqu'un de ta famille qui te fait ça. Il y a quelqu'un qui te fait ça. Là, toutes les pensées sont là, qui te poussent à retourner là où le Seigneur, d'où le Seigneur t'a sorti. Parce que tu ne comprends plus ce qui se passe. Ça fait trop de temps que ça dure. Et Job dit au verset 10, mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà l'attitude de celui que Dieu avait dit, il est intègre et il n'y en a pas un comme lui. Dieu ne s'était pas trompé sur Job. Le temps des ténèbres par lequel il est passé a justifié publiquement, devant tous les hommes, devant tous les anges, devant Satan, que celui-ci, il est vraiment le serviteur de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur attend. Durant ce jour des ténèbres, que le Seigneur puisse dire, celui-ci, il a vraiment fait le choix de marcher avec moi. Je semble loin de lui, mais il continue de louer mon nom. Il continue d'être fidèle dans ses engagements à l'église. Il continue de prêcher que je suis toujours Seigneur, même s'il est dans les difficultés. Ça, c'est véritablement celui que j'ai choisi. C'est pourquoi le Seigneur permet le temps des ténèbres. Le Seigneur n'est pas loin. La réalité, c'est qu'il est près de nous, et plus encore, il est au-dedans de nous. Parce qu'il dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit, parce que nous avons cru à l'Évangile. Mais le temps des ténèbres est utile, même si c'est arrivé au moment où tu t'y attends pas, dans un moment imprévu, où là, tu as vraiment le sentiment que là, avec tout ce qui se passe, il ne reste plus que la mort. Après toutes ces épreuves-là, qu'est-ce qui pouvait encore faire souffrir Job? Comprenne sa femme. C'est tout ce qui pouvait rester. Il avait subi le maximum. Même sa propre vie a été atteinte. Alors sa femme lui facilite les choses en quelque sorte. Elle lui dit, écoute, dans la situation dans laquelle tu es, on t'a déjà tout pris. Tu n'as plus de richesse, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de maison, tu n'as plus rien. Autant mourir. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre? Et c'est ce que certains chrétiens se disent. À quoi ça sert de rester chrétien si finalement Dieu ne m'entend pas? C'est une remarque que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. À quoi ça sert de rester fidèle au Seigneur si quand je prie, il ne m'exauce pas? Finalement, à quoi ça sert? C'est l'interrogation que s'est fait Asaph. Les gens qui font le mal prospèrent. Mais nous tous là, qui nous efforçons à vivre dans la parole du Seigneur, on ne voit rien. Asaph dit, j'allais trébucher. J'ai eu la pensée aussi de faire comme ça. J'ai eu cette pensée-là parce que dans tous les efforts que je fournis pour être fidèle au Seigneur, je ne vois rien. Mais ceux qui se rebellent contre lui, ce sont ceux-là qui progressent, ce sont ceux-là qui prospèrent. Et devant toutes ces difficultés, la tentation de rejeter le Seigneur, même si on ne le confesse pas dans notre bouche, mais de le rejeter par une façon de vivre, d'aller un peu dans le monde, de rejeter un peu, de quitter un petit peu la vie de l'Église, de nous éloigner un peu des chrétiens. Là, cette tentation qui est là. Parce que finalement, le Seigneur m'a tout simplement oublié. La voix de Dieu semble très loin. On ne l'entend plus, on n'entend que des mauvaises voix qui nous incitent au mal. Luc chapitre 22. Luc 22. Verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Ce que le Seigneur vivait, c'est ce qui avait été annoncé. Ce qui avait été annoncé, c'est ce qui avait été prédit et prévu par le Seigneur. Ce que Jésus-Christ allait vivre n'était pas quelque chose d'étranger à Dieu. Parce que dès l'instant où l'homme s'est retrouvé dans la situation d'être submergé, esclave du péché et de la mort, le Seigneur préparait déjà une solution de nous sortir de cet esclavage-là. Et cette solution passait par le sacrifice de Jésus, passait par la mort de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, en venant sur la terre, savait à quoi s'en tenir. Et à un moment donné, il s'est dit, mon âme est troublée à la mort, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule, je recule? Il dit, mais non, c'est pour arriver à cette heure-ci que je suis venu. Je suis venu pour ça, pour accomplir l'œuvre pour laquelle mon Père m'a envoyé. C'est pour ça que je suis venu. Les choses étaient prévues, les choses étaient préparées. Il est dit dans Éphésiens 2:10 que nous aussi, ayant été créés de nouveau, ayant été créés en Jésus-Christ, nous avons été créés pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes appelés à pratiquer les œuvres que Dieu a déjà préparées. Maintenant, toutes ces œuvres-là, pour y entrer, il y a un cheminement, il y a un projet, Il y a des paramètres que le Seigneur a mis en place dans lesquels nous sommes obligés de passer afin d'accomplir parfaitement ses œuvres. Si tu es appelé à prêcher à 1000 personnes, si tu es appelé à guérir les malades par le don que Dieu te donne, si tu es appelé à ressusciter les morts par le don que Dieu te donne, Dieu te préparera avant. Il permettra des épreuves pour te briser, pour t'emmener à être humble, pour t'emmener à reconnaître que c'est Dieu qui fait toutes choses et que tu n'es qu'un instrument qu'il utilise par amour. Tu n'es qu'un instrument qu'il utilise par sa souveraineté. Lorsque Dieu te brise et qu'il permet des événements difficiles, c'est là où tu deviens l'instrument voulu de Dieu qui va faire son œuvre en demeurant dans la voie du Seigneur. Et pour que le Seigneur arrive jusqu'à la croix, jusqu'à Golgotha, il fallait qu'il accomplisse tout ce qui avait été prédit par Ésaïe. Il fallait qu'on vienne l'arrêter comme un voleur. Lorsqu'il était sur la croix, il n'avait pas soif de vinaigre. Qui peut avoir soif de vinaigre? Mais il va dire ceci, afin que l'Écriture s'accomplisse. Alors j'ai soif. Parce qu'il était dit qu'on allait lui donner du vinaigre à boire. Et il a dit, je vais le faire sciemment, afin que l'Écriture s'accomplisse. Il a demandé à boire et on lui a présenté du vinaigre. Le Seigneur savait ce qui allait se passer. Il fallait qu'on l'arrête comme un voleur. Alors, quand on vient l'arrêter, il dit, c'est votre heure. Ça veut dire quoi? C'est l'heure que le Seigneur vous accorde pour faire de moi maintenant ce que vous voulez. Plusieurs fois avant, on avait tenté de l'arrêter. Mais la Bible dit, on ne l'a pas arrêté parce que ce n'était pas son heure. Ce n'était pas l'heure que le Seigneur avait fixée pour que le Fils de l'homme souffre. Ce n'était pas ce moment-là. On a voulu l'attraper pour le faire jeter de la colline. Il est passé entre le monde parce que ce n'était pas son heure. Mais là, cette fois-ci, lorsque les choses se sont passées, comme la parole l'avait annoncé, il dit, c'est désormais votre heure et c'est l'heure des ténèbres. C'est le moment que le Seigneur a permis pour que vous fassiez de moi ce que vous avez décidé de faire. Et au moment où Job est éprouvé, il est éprouvé au moment où Dieu dit à Satan, c'est le moment maintenant, tu peux aller. Tant que le Seigneur n'a pas donné le feu vert, tant que le Seigneur n'a pas donné le coup de départ, les ténèbres ne peuvent pas être là. Mais si tu es dans les ténèbres, ça veut dire que le Seigneur a donné la permission aux ténèbres de venir t'éprouver. Il n'y a pas un oiseau qui tombe du ciel, le Seigneur dit, sans que Dieu soit au courant. On vend des oiseaux tous les jours au marché, il dit. Il dit, on vend les oiseaux, on les vend. Mais il n'y en a pas un qui tombe sans que mon Père soit au courant. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Alors si le Seigneur connaît toutes choses à ce niveau-là, ça veut dire que le temps des ténèbres dans lequel tu te trouves aujourd'hui, le Seigneur le connaît aussi. Tu es dans l'attente de quelque chose, tu ne vois pas le jour. Tu as le sentiment que Dieu t'a oublié. Il n'a pas oublié les autres. Peut-être ce que tu demandes, Dieu l'a donné à quelqu'un d'autre. Tu vois que l'autre a. Tu te dis, mais peut-être lui n'a même pas prié, on lui donne. Moi, je prie, on ne me donne pas. Tu vois la situation problématique dans laquelle tu te trouves. Et tu entends que l'autre vient témoigner. J'étais dans telle situation, Dieu m'a béni, Dieu a fait ceci. Tu te dis, mais moi, à quel moment je veux venir aussi témoigner? Dieu ne fait pas. Si tu es dans les ténèbres, c'est que c'est le Seigneur qui l'a tout simplement permis. Il paraît être long. Il paraît être loin de toi. Mais la réalité, c'est qu'il ne l'est pas. Le Seigneur a laissé faire les choses parce qu'il savait que rien ne pouvait se faire sans que ça n'ait été décidé d'abord par le Seigneur. Rien ne peut arriver dans notre vie sans décision du Seigneur. Il faut que le Seigneur mette la signature, il mette son cachet sur le mandat pour dire « c'est bon, vous pouvez aller ». Tant que le Seigneur n'a pas dit son mot, rien ne peut nous arriver. Alors ce que nous vivons aujourd'hui, est voulu par le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps où le Seigneur a régné en gloire. Il a ressuscité les morts. Il a multiplié le pain. Ses disciples étaient près de lui. Ils étaient fiers de voir leur maître à l'œuvre, de voir leur maître au-dessus des lois de la nature, marcher sur les eaux, calmer la tempête. Mais là, ils vont voir que leur maître va être tout simplement humilié. On va l'attraper comme un brigand, comme un voleur. On va le comparer aux autres. Sauve-toi toi-même. Tu es sur la croix, mais sauve-toi. Et les gens peuvent rigoler quelquefois, peuvent se moquer ou ne pas comprendre. Certains vont même dire non, certainement lui, il a un grand problème avec Dieu. Parce que le temps que ça dure, certainement que ce qu'il a fait, c'est grave. Ceux qui sont autour en train de commenter, d'écrire les rubriques, de faire les journalismes, de voir ce qui se passe là, à tel point qu'on a même appris que notre pasteur ici, apparemment, il est sur un fauteuil roulant quand il était malade. Il est devenu handicapé. Voilà le bruit qui se disait là-bas. Donc même les gens du dehors sont au courant que le pasteur de Bethléem est malade à tel point qu'il est devenu handicapé. Il paraît même qu'il est sur un fauteuil roulant. Voilà ce qu'ils se disent. Parce que les gens voient que la personne ne semble pas bien. Et là, il y a ceux qui sont les journalistes qui vont faire colporter des nouvelles. Et comme ça fait, comme on dit, le téléphone arabe, d'un mot de tête, ah, c'est peut-être une leucémie. La leucémie là-bas, c'est arrivé, il est handicapé, sur le fauteuil roulant. Et le bruit se répand. Et les gens regardent pour dire, certainement Dieu l'a abandonné. Certainement Dieu n'est pas là. Mais le Seigneur dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ces gens qui étaient venus attraper Jésus, ils ont crié victoire. Crucifiez-le, crucifiez-le. Mais ils ne réalisaient pas là que c'était l'œuvre du Seigneur qui était tout simplement en train de fonctionner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, s'ils avaient connu le projet de Dieu, s'ils avaient compris ce que le Seigneur permettait lorsque Jésus-Christ était dans les ténèbres, ils ne l'auraient jamais crucifié. Si les gens pouvaient savoir pourquoi le Seigneur t'éprouvait autant, ils ne rigoleraient pas. Mais ils le verront plus tard. Et ils comprendront tout simplement que c'était l'œuvre du Seigneur. Mais ça sera trop tard. Ils ont compris que c'était trop tard. Ils se réjouissaient de crucifier. C'était une victoire pour eux. Mais ils ne savaient pas que dans ces ténèbres-là, le Seigneur préparait tout simplement la victoire. Pendant le temps où les choses semblent loin, semblent sombres, le Seigneur est en train de préparer quelque chose de grand. Dans le psaume 126, le peuple d'Israël en captivité. Ils étaient en captivité pendant des années et des années. Et ils expliquent que lorsque la délivrance de l'Éternel est venue, ils étaient comme les gens qui font un rêve. C'était beau. C'est comme si des gens n'espéraient plus. Parce que c'est comme si Dieu les avait abandonnés. Dieu les avait laissés là, à la merci de leur ennemi, esclaves. Ils ne s'y attendaient pas à tel point que lorsque la délivrance est venue, il dit, c'était comme un rêve. On était comme les gens qui font un rêve. Vous savez, il y a des rêves où tu ne veux pas te réveiller des fois. Voilà. Il suffit juste qu'on te dérange un peu, tu essaies de te prolonger, de te rendormir parce que il faut finir le rêve. Il y a des rêves qui sont agréables. Tu te lèves et tu es de bonne humeur parce que tu as fait un beau rêve. Eh bien, ils disent, on était comme des gens qui font un rêve. C'était difficile à croire. Tellement le temps des ténèbres nous ont paru trop long. Tellement durant ce temps des ténèbres où on n'espérait plus. On avait le sentiment que véritablement, Dieu nous avait abandonnés. Mais ils ont dit non. Celui qui sème avec les larmes moissonnera aussi avec allégresse. Celui qui demeure fidèle pendant ce temps des ténèbres, alors il se réjouira lorsqu'il verra la lumière de Dieu se lever, comme Jésus-Christ s'est levé pour l'humanité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir. Mais le temps de souffrance ne sera pas éternel. Le temps des ténèbres ne durera pas toujours, bien-aimé, ça ne durera pas toujours. Voyons l'attitude de Job, voyons l'attitude de notre Seigneur. Il n'a pas renié. Pendant qu'il est maltraité, on lui pose la question, « Toi, tu es vraiment le Fils de Dieu ?» Et tu le dis, « Je le suis. » Tu es en souffrance, tu es maltraité, mais tu confesses que tu es le Fils de Dieu. Tu es dans les ténèbres, il te manque peut-être tout. Il te manque la bonne santé. Il te manque peut-être de quoi t'acheter une paire de chaussures. On te pose la question, tu es sûr que Dieu est vraiment Dieu? Oui, il est vraiment Dieu. Il est véritablement le Seigneur de tous les seigneurs, il est le roi des rois. Dieu ne dépend pas de ce que moi je vis. Lors du déluge, il était sur le trône. Ce n'est pas parce que les hommes étaient en train de s'agiter, de crier leur détresse que Dieu n'était plus Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les ténèbres que Jésus-Christ n'est plus Seigneur. Il reste Seigneur. Et le Seigneur est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Avant de partir, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Il dit, vous êtes tristes parce que je vous ai dit que je m'en vais. Vous êtes triste, mais bientôt je vous donnerai une joie que personne ne vous ravira. Je vous donnerai une joie que personne ne pourra vous enlever. Le temps des ténèbres ne régneront pas toujours. Durant ce temps-là, restant accroché aux promesses de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur ne ment pas. Et comme il a dit à Habacuc, le projet est déjà en marche. La chose court déjà vers son accomplissement. Si elle semble tarder, attends-la tout simplement, car elle s'accomplira certainement. Si tu as la foi dans le Seigneur, quel que soit le temps difficile que tu vis, attends-toi au Seigneur. Le Seigneur agira. Le Seigneur agira. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce que tu attends de Dieu, ce que le Seigneur a promis de te donner, pas promis parce que tu as peut-être entendu sa voix, mais promis parce que les promesses de la Bible, elles sont pour nous et que tu les as saisies toi par la foi pour en faire ta promesse. Alors, attends-toi au Seigneur, il finira par agir. Il y a un verset qui dit, le Seigneur aime ceux qui espèrent en lui. Le Seigneur aime ceux qui espèrent en lui. Il aime ceux qui s'attendent à lui. David a dit, je compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que le garde ne compte sur le matin, je sais que le Seigneur agira. Il se peut que le soleil ne se lève pas, mais le Seigneur interviendra. Ça, c'est la foi et l'assurance que le David avait en son Dieu. Soyons animés, bien-aimés, de ce même sentiment. Le Seigneur finira par agir. Et le Seigneur fait des choses extraordinaires. Il fait des choses extraordinaires. Je clôture avec un témoignage. Quand j'ai acheté ma voiture, il y avait un problème d'application sur la voiture qui se manifestait à chaque fois. J'ai laissé passer de temps. Je suis reparti chez le constructeur puisque la voiture était encore sous garantie. Et ils me disent que non, le problème vient de telle et telle chose. Le problème persiste. Je reviens une deuxième fois, une troisième fois, finalement pour qu'ils me disent, écoutez, votre problème d'écran, finalement, c'est l'autoradio qui est abîmé. Seulement, la voiture est garantie 5 ans, mais l'autoradio n'est garantie que 2 ans. Donc, on ne peut rien faire. Alors, je demande, ben, faites-moi un devis, puisque j'ai laissé le temps passer, et ça s'est carrément abîmé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien, ça ne fonctionnait plus. Donc, je retourne les voir, je dis, est-ce que je peux avoir un devis pour changer l'autoradio? Ils me disent 3 200 €. J'ai dit, il est évident que 3 200 €, je ne les mettrai jamais. Voilà, même si je les avais là, je n'aurais pas payé 3 200 € pour un autoradio, ça va rester comme ça. Alors, le temps passe et quelques jours plus tard, je dis, tiens, je vais regarder un peu sur Internet pour voir s'il n'y a pas la possibilité de trouver des petits réparateurs, des petits artisans qui s'y connaissent un peu en électronique pour savoir si c'est possible. Et je tombe sur des forums où des gens qui ont eu le même problème discutent et disent que ben, pour moi, ça s'est passé, mais ça s'est réparé tout seul. Alors, je pars de ce point-là parce qu'il n'y a pas que ça. Il y avait d'autres choses dans ma vie. Et ça, c'était un point qui venait s'ajouter encore. Je dis, mais c'est terrible. Donc, les choses ne faisaient que s'amonceler. Plus ça encore, mais ça va rester comme ça. Et en regardant sur les forums, je vois qu'on nous dit que pour certaines voitures, il y a la possibilité de faire une mise à jour de l'électronique, de l'ordinateur, de la voiture à vie. Je dis bon, je retourne voir le constructeur, je dis mais j'ai vu sur le site de la marque qu'on peut faire telle chose. Est-ce qu'on peut essayer de réinitialiser pour voir si ça va fonctionner? Il me dit d'accord, on va le faire. Alors, à la minute même, il me dit mais est-ce que vous pouvez ramener votre voiture aujourd'hui? J'ai dit ok, je ramène la voiture, je dépose la voiture, je dis je remonte et quand ça sera prêt, ils vont m'appeler. Il m'appelle avant que j'arrive même chez moi pour me dire bah, écoutez, l'autoradio est mort. Il faut l'envoyer en réparation. J'ai dit, attendez d'abord, attendez. Vous allez envoyer en réparation, mais ça va me coûter combien? Il dit, non, ça va rien vous coûter. J'ai pas voulu poser trop de questions. J'ai dit, si je pose trop de questions, il risque de changer d'avis, de me dire, ah, je me suis trompé. J'ai laissé faire. Il démonte le véhicule et l'autoradio, et donc il y a 2 jours, il me rappelle pour me dire, c'est bon, l'autoradio est arrivé, vous pouvez venir emmener le véhicule, on va remonter l'autoradio. Donc je laisse le véhicule. Et il vient, il me donne les clés. Avant de partir, je dis, non, je veux quand même poser la question. Je dis, mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je ne paye rien? Il dit, non, mais la garantie a pris en charge. Avant que j'emmène la voiture, je voulais m'assurer moi-même, avant de leur donner la voiture, que la garantie était bien de 2 ans. J'ai ouvert donc le contrat de la voiture et c'était bien écrit, l'autoradio garantie 2 ans. La garantie de véhicule, c'est là au mois d'avril, ça fera 5 ans. Donc ça fait déjà 3 ans que l'autoradio n'est plus garanti. Donc il me donne les clés et il me dit non, la garantie a pris en charge. Je n'ai pas voulu poser plus de questions. Parce que tel que ça s'est passé depuis longtemps, ça ne devait pas se faire ainsi. Donc je donne ce témoignage pour dire quoi ? Que même dans des temps que nous pouvons considérer difficiles, dans des temps que nous pouvons considérer comme ténèbres, on reconnaît quand même la main de Dieu dans beaucoup de choses. C'est pourquoi le Seigneur a dit à son peuple, ça a été difficile dans le désert, c'est vrai, 40 ans, mais reconnais quand même que tu n'as pas manqué de quoi manger. Reconnais quand même que tes souliers ne se sont pas usés. Reconnais quand même que le vêtement, il ne t'a pas manqué. Même si c'est difficile, voyons quand même que le Seigneur prend soin de nous. Et tout ça, c'est la fidélité de Dieu qui nous montre que, même si tu es dans les ténèbres, mais toutes ces attentions de Dieu montrent que je suis quand même là avec toi. Le Seigneur est présent. Mettons notre foi dans le Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça peut paraître long, mais la réalité, c'est que Dieu s'élèvera parce qu'il y a une fin pour toutes choses. Non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Le Seigneur dit qu'il essuiera toute larme. Et lorsque nous serons avec lui, il n'y aura plus de deuil. Fini les pleurs, fini la maladie. Nous nous attendons au Seigneur parce que nous savons qu'il a tout accompli. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois élevé encore en ce jour, Seigneur. C'est vrai que lorsque nous réalisons véritablement, Seigneur, ce que tu accomplis dans nos vies, même si il peut y avoir des temps difficiles, Seigneur, nous ne pouvons pas rejeter la réalité que tu prends soin de nous, Seigneur. Nous avons le nécessaire pour manger. Nous avons le nécessaire pour nous vêtir, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu ne changes pas. Ce que tu as accompli avec ton peuple, Seigneur, ce que tu as accompli dans la vie de Job, Seigneur, tu peux le faire avec nous, parce que toi qui es le Dieu de Jacob, Seigneur, tu es aussi notre Dieu. Le Dieu de Job, tu es aussi notre Dieu, Seigneur. Et la Bible dit, Seigneur, qu'en toi, il n'y a point de favoritisme. Ce que tu as fait pour eux, Seigneur, tu peux aussi le faire pour nous. Les temps des ténèbres, Seigneur de gloire, cesseront un jour. Seigneur, nous voulons chaque jour marcher avec cette assurance, Seigneur. Même si c'est difficile, Seigneur, nous ne voulons pas renier que tu prends soin de nous. Comme Job l'a dit, Seigneur Dieu de gloire, nous recevons le bien de toi et nous nous réjouissons. Pourquoi te rejeter, Seigneur de gloire, lorsque le mal nous atteint? Lorsque tu nous plonges dans l'épreuve, Seigneur, est-ce que c'est là que nous dirions, Seigneur de gloire, que finalement tu n'es pas amour? Seigneur, tu ne changes pas. Il n'y a aucune ombre de variation en toi, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le nom de Jésus. Seigneur, si il nous a manqué la foi, Seigneur, nous prions. Augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente-nous la foi, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, afin que notre foi soit stable en toi. Que nous ne soyons plus ballottés, Seigneur Dieu de gloire, à la plus petite des épreuves, Seigneur. Que nous ne remettions pas, Seigneur Dieu de gloire, notre salut en question. Que nous ne remettions pas, Seigneur de gloire, ta présence dans nos vies en question. Tu es là, Seigneur. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous voulons nous attacher à tes promesses. Nous voulons croire, Seigneur Dieu de gloire, en ta fidélité, Seigneur. La Bible dit que ce que tu tiens dans ta main, personne ne le ravira. Seigneur, tu veux nous faire grandir. Derrière ce temps de ténèbres, Seigneur, Job a confessé qu'il avait entendu parler de toi, mais qu'il t'a vu. Ce temps des ténèbres, Seigneur de gloire, l'a permis de te découvrir, Seigneur de gloire, tel qu'il ne te connaissait pas. Tel qu'il ne te connaissait pas, Seigneur. Israël a connu 40 ans de ténèbres dans le désert, Seigneur. Mais ils sont arrivés dans la terre promise. Parce que tu ne mens pas, Seigneur. La Bible dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Seigneur, tu veilles sur tes promesses. Et elles s'accomplissent, Seigneur, de gloire toujours, parce que tu es fidèle. Regarde dans nos cœurs, Seigneur. Regarde au-dedans de nous, Seigneur Dieu de gloire. Combien nous avons été brisés par certaines épreuves. Par ce temps des ténèbres, Seigneur, c'est vrai, où nous avons eu le sentiment que tu étais si loin, Seigneur. Tous ces temps que nous avons passés dans la prière, et en sortant de la prière, Seigneur de gloire, nous avons eu le sentiment que tu ne nous as pas entendus, Seigneur. Regarde, Seigneur Dieu de gloire, au-dedans de nous, Seigneur, toutes ces choses pour lesquelles nous t'avons prié depuis des mois, depuis des années, Seigneur. Seigneur, mets la foi dans nos cœurs, mets la paix dans nos cœurs, Seigneur. Car tu es fidèle, Seigneur Dieu de gloire, et tu agiras au temps convenable, Seigneur. Tu agiras au temps convenable, Seigneur, nous voulons te faire confiance. Oui, Seigneur de gloire, tu es le Dieu de Jacob. Alléluia. Soutiens notre foi, Seigneur. Comme le dit ce chant, Dieu de Jacob, soutiens notre foi. Seigneur, nous voulons rester attachés à toi. Que les épreuves ne nous détournent pas de toi, Seigneur. Que les épreuves ne nous emmènent pas, Seigneur Dieu de gloire, à te bouder, Seigneur. À bouder l'église, à bouder les frères et sœurs. Que ces épreuves ne nous emmènent pas, Seigneur de gloire, à être jaloux de ce que tu fais dans la vie des autres, Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, nous voulons réaliser que tout cela, Seigneur, est le témoignage que tu agis toujours. À travers ce que tu fais dans la vie des autres, Seigneur, ça montre que tu es vivant. Seigneur Dieu de gloire, les oiseaux volent toujours, Seigneur. Le soleil brille toujours, Seigneur Dieu de gloire, au-dessus de nos têtes, Seigneur. C'est le témoignage, Seigneur Dieu de gloire, que tu contrôles toutes choses. Que tu maîtrises toutes choses, Seigneur de gloire, car les choses demeurent telles que tu les as créées, Seigneur. Les poissons sont toujours dans la mer, Seigneur. C'est le témoignage, Seigneur de gloire, que tu soutiens toutes choses, Seigneur. Alléluia. Soutiens notre foi, Seigneur, car sans la foi, personne ne peut te plaire.